Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, qu'avez-vous au menu ce matin Cyril ?
Ce matin, je vous parle des journaux qui ne sont pas dans vos kiosques et de l'État qui vole au secours de Presstalis, de Facebook qui va payer une amende de 52 millions de dollars, de Twitter accusé de laisser se propager les contenus haineux, de la finale de Koh-Lanta et d'une drôle de fête de la musique.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Ce qui est le plus fort, c'est Harry Potter. Évidemment, près de 6 900 000 Français ont regardé le cinquième épisode de la série créée par J.K. Rowling sur TF1. Derrière, la série Tandem sur France 3 est juste sous la barre des 4 900 000 téléspectateurs. Enfin, M6 est le troisième de ce podium. Les Baudins ont été regardés par près de 3 500 000 de téléspectateurs. C'est nettement moins bien que lors de leur premier passage sur M6. C'était en avril 2019 et à l'époque, il y avait 4 800 000 téléspectateurs pour suivre leur spectacle.
Oui, mais là, quand même, c'était une rediff. 3 500 000 pour la rediff du spectacle passé, le même qui a fait 4 800 000. Si on additionne, c'est pas mal.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par la situation de Presstalis qui s'occupe de distribuer les journaux et les magazines en France. On l'a dit ici, on a souvent traité ce sujet. L'entreprise est en liquidation partielle et pour protester contre cette situation, le syndicat du livre a décidé de bloquer la parution des journaux aujourd'hui.
Oui, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à trouver vos quotidiens nationaux ce matin. Le CGLCE-CGT a appelé à la non-parution des journaux aujourd'hui. Et c'est un mouvement qui pourrait bien durer. Hier, déjà, les quotidiens nationaux et quelques magazines n'ont pas été distribués à Marseille et Lyon. Vous en avez parlé, Philippe Presstalis a déposé le bilan fin avril. La situation est catastrophique pour le distributeur de la presse française. Une audience hier au tribunal de commerce de Paris a permis de mettre sur la table une solution. Mais évidemment, cette solution ne concerne pas l'ensemble de l'activité actuelle, ce qui explique les protestations du syndicat du livre. Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, on vient de l'apprendre, l'État va accorder un prêt de 35 millions d'euros à Presstalis.
Et on peut le dire, le déficit de Presstalis s'élève entre 500 et 600 millions d'euros, donc 35 millions, on verra bien. Cyril, vous le disiez dans votre sommaire, Facebook va devoir sortir son carnet de chèques pour payer une lourde amende.
Oui, Facebook va devoir payer 52 millions de dollars aux équipes de modération qui travaillent pour la plateforme et qui souffrent de troubles de stress post-traumatique.
Non.
En tout, ce sont 11 250 personnes qui sont concernées par cet accord négocié entre Facebook et les plaignants. Elles toucheront toutes au minimum 1000 dollars chacune. Effectivement, la somme est grosse, mais il y a beaucoup de plaignants. Ça fait plusieurs années que Facebook est très critiqué pour la gestion des équipes qui s'occupent de la modération des contenus. Vous savez, en fait, ce sont eux qui doivent intervenir pour vérifier si des messages peuvent être considérés comme haineux, diffamatoires, racistes, ou plus largement, s'ils ne respectent pas les règles d'utilisation de Facebook. En tout, Facebook emploie plus de 30 000 personnes à travers le monde, rien que pour cette tâche. Mais en fait, toutes ces équipes ne travaillent pas directement pour l'entreprise de Mark Zuckerberg. Elles sont le plus souvent en contrat avec un sous-traitant. Mais je vous le disais, plusieurs enquêtes ont mis à jour les conditions très difficiles dans lesquelles ces employés travaillent. Ils sont nombreux à se plaindre de ce qu'ils doivent regarder quotidiennement. Des images de meurtres, de viols, de suicides, des vidéos de décapitation mises en ligne par des terroristes. C'est ce qu'on appelle évidemment un environnement de travail particulièrement lourd. Même si, on le sait, Facebook se repose de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour surveiller ce qui est mis en ligne, ces robots sont perfectibles et ce sont donc à ces modérateurs d'éviter que les contenus indésirables restent en ligne trop longtemps, et le tout à un rythme de travail extrêmement élevé. Pour vous donner une idée, chaque seconde, 4000 photos sont publiées sur Facebook. J'ai bien dit 4000 photos par seconde.
Oh là là.
Alors, évidemment, toutes ne demandent pas l'intervention de ces modérateurs, mais ça vous donne une idée de l'amas de données qui doivent être traitées chaque jour par ces petites mains de Facebook, et le plus souvent pour des salaires pas très élevés. Il y a presque 2 ans, plusieurs d'entre eux, donc plus de 11 000, ont décidé de saisir la justice pour se plaindre de leurs conditions de travail. C'est ce qui a mené à cet accord. Facebook va donc leur verser 52 millions de dollars, et l'entreprise s'est également engagée à mieux accompagner ses équipes au quotidien.
Cyril, on reste du côté des réseaux sociaux et de la justice, mais cette fois cela se passe en France.
Et c'est encore un sujet lié à la modération. Cette fois, c'est Twitter qui est mis en cause. 4 associations de lutte contre les discriminations l'accusent de manquer de manière ancienne et persistante à ses obligations en matière de modération de contenu. L'Union des étudiants juifs de France, J'accuse, SOS Racisme et SOS Homophobie ont mené leur propre étude entre le 17 mars et le 5 mai. Et elles affirment que les contenus haineux ont grimpé de 43% sur Twitter au cours de cette période de confinement. Les associations disent avoir signalé 1110 tweets haineux et parmi eux, seuls 12% ont été supprimés dans ce que les associations appellent une période raisonnable qui va de 3 à 5 jours. Des résultats jugés intolérables par les plaignants qui ont donc saisi la justice pour obliger Twitter à agir plus vite.
Et puis Cyril, après cette séquence justice, on va revenir à quelque chose de plus léger, la finale de Koh-Lanta.
Le dénouement est proche et les fans du jeu d'aventure de TF1 attendaient de savoir quand les aventuriers allaient se retrouver sur des poteaux. Eh bien, nous avons la réponse. La finale se déroulera en deux parties. Oui, c'est la mode cette année à cause du coronavirus. La première soirée sera diffusée le vendredi 29 mai avec l'épreuve d'orientation comme plat de résistance, un moment toujours très stressant pour les candidats. Et la seconde partie de la finale aura lieu la semaine d'après, le vendredi 5 juin donc, avec l'épreuve des poteaux et l'ultime conseil avec la consécration du grand gagnant ou de la grande gagnante de cette saison. On n'en sait pas encore beaucoup plus sur la manière dont cette dernière soirée sera organisée. Seul élément, ça se passera bien en direct et évidemment sans public. Et je vous le disais, Koh-Lanta a beaucoup été découpé cette saison. L'émission le sera encore ce vendredi.
Alors ce sera le 21 juin, on connaît la date. France 2 prépare la fête de la musique, mais évidemment dans des conditions un peu particulières.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. La chaîne qui organise chaque année un concert en plein air a dû changer ses plans. Et le nouveau est pour le moins surprenant. France 2 a décidé de louer l'Accor Arena, une salle de 20 000 personnes, qui n'accueillera personne. Oui. Et oui, les restrictions sanitaires empêchent d'organiser des concerts. Et celui de France 2 ne dérogera pas à la règle. Les artistes vont donc se produire sur la scène de Bercy, mais dans une salle vide. Ils n'auront pour seul public que les techniciens pour sur place pour les filmer. Mais France 2 tenait à maintenir ce rendez-vous. Alexandra Redamiel, la directrice du divertissement de France 2, y voit une manière de soutenir les salles qui ne peuvent pas ouvrir et les festivals qui ont été annulés. Dans Le Parisien, elle annonce qu'une trentaine d'artistes devraient participer à ce concert un peu particulier pour eux quand même.
Après Hélène et les garçons, je suis étonné que vous me parliez de ça, mais en même temps je m'en doutais un peu, les miracles de l'amour, les vacances de l'amour et aujourd'hui les mystères de l'amour. Question Cyril Lacarrière, je m'adresse au grand journaliste média que vous êtes, est-ce qu'on aura bientôt une nouvelle déclinaison amoureuse de la sitcom. La France retient son souffle et vous écoute.
Oui, préparez-vous, roulement de tambour, c'est ce qui semble bien se profiler. Nicolas Puy-Debat, le comédien qui incarne Nicolas dans la série, révèle à nos confrères de Télé Loisirs qu'il veut lancer un nouveau concept. Alors non, Hélène, ça suffit de tirer la couverture à toi. Les garçons ont décidé de s'émanciper. Nicolas Puy-Debat travaille en ce moment même à une nouvelle série, mais uniquement avec les garçons, Cricri, Peter, José et Jimmy. Mais cette série ne serait pas vraiment en fait une nouvelle série. Selon Nicolas, chaque comédien portera son véritable prénom dans cette série. Bah, comme Nicolas qui porte déjà le prénom de Nicolas.
Ouais.
Mais à en croire Nicolas Puy-Debat, le pilote, lui, est déjà écrit. Reste à trouver un producteur, peut-être AB, qui sait, et une chaîne.
Merci beaucoup. On me dit dans l'oreillette que c'est Patrick Puy-Debat, me dit Jérémy, c'est son vrai prénom à Jérémy. Je crois qu'il s'appelle Patrick Puy-Debat. Cyril Lacarrière.
Pourquoi j'ai décidé de l'appeler Nicolas Puy-Debat?
Vous êtes vraiment... Vous êtes
vraiment... d'intoxication à la série. Voilà. Pour moi, il s'appelle Nicolas, ce garçon.
Cyril Lacarrière et son coming out sur Hélène et les garçons. Merci beaucoup, Cyril. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias, Culture Média, qui continue évidemment.